Studio Tamani, voici les informations en français.
Le thermomètre affiche 29 degrés Celsius sur Bamako et environ. Il est 18h, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue aux informations. À la une de l'actualité, accentuer la lutte contre l'enrichissement illicite au Mali en protégeant mieux les lanceurs d'alerte. C'est l'objectif de l'OCLEI. Il a organisé ce matin une rencontre sur la question. Le colonel-major Olivier Diassana est le nouveau gouverneur de la région de Badiangara depuis hier lundi. L'exécutif régional appelle à l'Union sacrée afin de combattre l'insécurité. Les dossiers de la semaine s'intéressent à l'interruption volontaire de grossesse, IVG. Quelles peuvent être ses conséquences? Que dit la loi sur la pratique? La réponse dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Les détails dans un instant avec Lala Diarra Touré à la technique Adjaratou Traoré. Merci de choisir Studio Tamani pour vous informer. Comme annoncé dans les titres, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, OCLEI, veut protéger les lanceurs d'alerte au Mali. Il a organisé ce mardi une rencontre d'échange sur la protection de ces personnes importantes dans la chaîne de lutte contre la corruption. C'était en marge de la journée africaine de lutte contre la corruption, célébrée chaque 11 juillet. Les détails avec Adama Amadou Haïdara.
Les lanceurs d'alerte sont parfois exposés à beaucoup de menaces après avoir dénoncé des cas de corruption. Afin de mieux les protéger, l'OCLEI envisage donc plusieurs mesures. Seydina Omar Diarra, représentant du président de l'OCLEI, revient sur ces dispositions.
Ces mesures concernent la non-divulgation de l'identité et l'adresse du témoin ou de la victime, l'élection de domicile dans un commissariat ou une gendarmerie, l'usage d'une identité d'emprunt, l'enregistrement audiovisuel des déclarations et leur placement sous scellé.
Une relecture du code pénal et du code de procédure pénale est même prévue pour une protection plus efficace des lanceurs d'alerte. Fadiala Koulibaly, président de l'Association malienne pour la promotion de la bonne gouvernance, salue la nécessité de cette protection pour encourager d'autres personnes à devenir des lanceurs d'alerte.
C'est déjà une fois que l'alerte lancée qui se retrouve licenciée font l'objet de représailles, de harcèlement moral, d'agressions physiques qui peuvent se retrouver poursuivies pour diffamation. Or, aujourd'hui, les personnes qui sont les comptables, les ordonnateurs, les responsables financiers, les DAF, peuvent efficacement contribuer à limiter sérieusement le coût de la corruption dans notre pays.
Dans une étude faite sur la problématique des finances au Mali, l'OCLEI enseigne que de 2005 à 2019, l'État a perdu 1266 milliards de francs CFA à cause de la corruption. Un manque à gagner que le travail de lanceurs d'alerte pouvait contribuer à éviter, selon des spécialistes des questions de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption.
Vous pouvez donner votre avis sur ces informations sur notre page Facebook, notre compte X, anciennement Twitter. Partons à l'intérieur du pays. À présent, la région de Badiangara a désormais un nouveau gouverneur. Le colonel-major Olivier Diassana a prêté serment hier lundi 9 septembre 2024 au tribunal de Badiangara. Il s'installe dans un contexte de forte tension due à l'insécurité. Cependant, le nouveau chef de l'exécutif appelle toutes les communautés à se retrouver autour de l'essentiel, qui est la paix et la cohésion sociale. Reportage de notre correspondant Adama Djigiba depuis Badiangara.
L'installation du nouveau gouverneur suscite de l'espoir chez les populations de Badiangara. Une seule requête à l'endroit de l'exécutif, c'est la sécurité.
Rien que la sécurité. Et je suis sûr et certain qu'avec ce gouverneur entrant, il y aura la solution.
Que la paix revienne et la cohésion sociale. C'est ça que nous cherchons aujourd'hui à Badiangara.
Notre grande préoccupation pour le moment, c'est la sécurité. Pour que nous puissions mener nos activités, travailler au champ, produire à manger.
Le colonel-major Olivier Diassana, nouveau gouverneur, s'est dit conscient des défis qui l'attendaient. Cependant, pour parvenir à cette sécurité, il invite les uns et les autres à la tolérance et à la cohésion sociale.
Je demeure convaincu que c'est ensemble que nous relèverons le défi. Je vous demande de renoncer à vos égos personnels et donner la priorité à la paix et au développement de la région. Que chaque Dogonon tienne la main de son peuple et que chaque peuple tienne la main de son Dogonon.
La passation de service entre le gouverneur sortant Sidi Mohamed El Béchir Babi et le rentrant, le colonel-major Olivier Diassana, a eu lieu le samedi 7 novembre 2024. C'était lors d'une cérémonie solennelle dans la salle de conférence du gouvernorat de Badiangara. Depuis Badiangara, Adama Djigiba pour Studio Tamani.
Ouvrons à présent la page sport dans ce journal. Sport football, deuxième journée des éliminatoires CAN-Maroc 2025. Le Mali a battu l'Eswatini cet après-midi par le score d'un but à zéro. L'unique but de la rencontre a été marqué à la 7e minute par le capitaine du jour, Yves Bissouma. Ainsi, les Aigles se relancent dans le groupe I avec 4 points. Parlons toujours sport. Le Burkina Faso reçoit ce soir à 19h le Malawi au stade du 26 mars de Bamako, toujours au compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN-Maroc 2025. Les supporters burkinabés sont arrivés ce matin à Bamako pour soutenir les étalons. Ils demandent au public sportif malien de sortir massivement pour suivre le match. Reportage signé Omar Ouigalou.
Il est 11h ce matin devant l'ambassade de Burkina Faso au Mali. Les bus des supporters des étalons sont déjà stationnés. À son bord, des supporters prêts à aller soutenir leur sélection nationale. Nahiki Zia André, membre de l'association des supporters des étalons, lance un appel à ses compatriotes au Mali.
Nous avons notre communauté forte qui sont ici à Bamako. Nous demandons de sortir ensemble que nous puissions soutenir notre nationale étalon. C'est la victoire que nous sommes venus chercher. Également les frères maliens. Je sais que ce soir, tout le monde sortira pour soutenir notre équipe nationale.
À Bamako, des supporters maliens aussi se mobilisent pour apporter leur soutien aux étalons du Burkina Faso. Un pays frère, disent-ils. Certains donnent déjà leur pronostic.
Parce que nous sommes tous les mêmes. J'ai vu tous les Maliens et les Maliennes aller supporter le Burkina ce soir.
Je ne dirais pas que c'est une équipe du Burkina, c'est une équipe de l'AS.
Burkina-Mali, c'est la même quoi.
Ce soir-là, c'est 2-0.
Il faut rappeler qu'en juin dernier, le Burkina Faso a reçu la Sierra Leone pour le compte des éliminatoires du Mondial 2026 au stade du 26 mars de Bamako. La rencontre s'est soldée sur le score de 2 buts partout.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
18h passées des 6 minutes, nous en venons à présent au dossier de la semaine. Je vous l'annonçais au sommaire, interrompre de façon volontaire une grossesse est une pratique récurrente qui s'est faite de manière clandestine dans notre pays, selon des spécialistes en santé. Si cette procédure nécessite un contrôle médical, elle est souvent faite en dehors du cadre normal, alors que les médecins préviennent contre des multiples dangers qui peuvent en découler, parmi lesquels le décès de la maman. Il faut par ailleurs rappeler que l'interruption volontaire de grossesse est interdit par la loi au Mali, sauf en cas de dispositions prévues par cette même loi. Amadou Sadio Camara nous en dit plus dans ce dossier.
L'avortement, d'une manière générale, est l'interruption spontanée ou provoquée d'une grossesse avant 22 semaines. Il est dit clandestin, selon les médecins, lorsqu'on utilise des moyens en vue d'expulser un fœtus qui évolue normalement et sans danger pour la vie de sa mère. Que pensent donc les citoyens de cette pratique qui mine notre société ?
De nos jours, l'avortement n'est pas une bonne chose. Elle peut engendrer beaucoup de conséquences chez la jeune fille. Et religieusement, ce n'est pas une bonne chose. Déjà que la grossesse est contractée, il faut donc garder l'enfant en vie. Cela vaut mieux que le tuer.
Il y a des médicaments dont leur prise pourrait tuer l'enfant, alors que cela n'était pas le but recherché.
L'avortement n'est pas une bonne chose. Certains peuvent même en mourir.
Les médecins sont formels. L'interruption clandestine de grossesse peut avoir des conséquences graves sur la santé de la patiente. Docteur Khalifa Traoré, gynécologue obstétricien.
L'avortement provoqué clandestin entraîne des complications très graves, comme par exemple les hémorragies, les infections. Et dans d'autres cas même, la patiente arrive à un état très grave où le décès est même constaté souvent.
L'avortement clandestin est fortement interdit par les textes somalis. Selon la loi, les auteurs sont passibles à des poursuites judiciaires. Ibrahim Ben Mamata Touré, juriste.
Les auteurs d'un avortement peuvent encourir une peine de 5 ans d'emprisonnement et facultativement de 20 000 à 1 million de francs CFA d'amende. S'agissant des médecins, des autres peuvent être sous la coupole aussi de condamnation de 2 ans.
Le recours à la clandestinité de l'avortement s'explique par les caractères conservateurs de notre société, affirme le sociologue Kounandji Diarra. Une situation qui contribue à accentuer le phénomène.
C'est un sujet tabou pour les conservateurs. Rares sont les familles où les parents discutent en famille parce que ce sont des conservateurs. Pourquoi certains phénomènes se passent derrière eux des conséquences dramatiques.
Au-delà de tout ce qui précède, il est possible de procéder à un avortement, mais dans des conditions bien précises. Ibrahim Ben Mamata Touré, juriste.
Les cas échéants où l'on peut être amené à l'interruption, ça c'est les cas de force majeure où les diagnostics d'un médecin spécialiste peuvent amener à des complications de grossesse qui peuvent mettre soit la vie de la maman en danger, soit la vie de l'enfant en danger ou des deux.
Néanmoins, les spécialistes de la santé recommandent toujours de se rendre dans des structures médicalisées propres à la pratique.
Merci Amadou Sadio Camara. Retrouvez désormais nos productions sur WhatsApp à travers le numéro suivant 75 99 76 19. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site ou notre page Facebook et cliquer sur l'icône WhatsApp. Mariam Koulibaly vient de nous rejoindre dans ses studios pour l'introduction du débat de ce soir. Mariam, bonsoir. Quel est le sujet dont vous allez débattre et avec qui?
Le karité, un arbre aux vertus innombrables. C'est l'intitulé du débat d'aujourd'hui. Madame Khadija Toula, directrice de l'AWAL International et exportateur de matières premières. Madame Dao Jeanne Dambélé, promotrice de l'entreprise DJD Asikasso. Aïssat Asso, promotrice de la marque Sadio Natural Product, sont nos invités du jour.
Point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le réécouter gratuitement et les magazines qui va suivre en appelant le service qu'on a fourni au 37 321. C'est gratuit. Vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. À demain. Plaisir à Dieu. Tout de suite, les magazines. Femmes et état civil au Mali, c'est le thème de notre magazine Toutes les femmes du Mali du jour. Les actes de naissance, de mariage, de décès sont entre autres documents importants dans la vie d'un homme. L'accès à ce document d'état civil est-il facile pour une femme malienne? La femme a-t-elle aussi un droit de garde sur ses actes d'état civil dans le foyer? Que dit le code des personnes et de la famille sur la gestion de l'état civil au Mali? La réponse dans ce magazine Toutes les femmes, réalisé par Moussa Malé Sissoko.
L'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes, APDF, est une ONG malienne. Elle lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination à l'égard des femmes. La présidente nationale, Madame Diawara Bintou Koulibaly, affirme que des femmes sont confrontées à des difficultés pour accéder à des documents d'état civil.
Les femmes aussi ne comprennent pas, sauf en cas de difficulté. Et nous rencontrons beaucoup de cas où c'est l'homme qui a tous les documents. Et même si la femme a besoin d'un acte pour avoir ses problèmes, elle doit disposer de l'acte de naissance de ses enfants, de l'acte de mariage. Et souvent, quand on les envoie à la mairie, il faut que nous intervenions. L'acte de naissance, c'est plus facile d'avoir une copie à la mairie que l'acte de mariage. Surtout quand la femme dit qu'elle veut un divorce.
Pourtant, l'accès à ces documents n'est pas compliqué pour les femmes, réplique le chargé d'état civil à la mairie de la commune 4 du district de Bamako. Abdina Karambe rappelle d'abord que la garde de ces papiers revient à l'époux avant de préciser que l'officier d'état civil tente souvent de rapprocher les conjoints en cas de problème.
Dans les dispositions du code de mariage, on dit que c'est le mari qui est le chef. Donc c'est au mari qu'il appartient de garder ces documents pour le couple. Les femmes, c'est leur droit. Dès qu'elles viennent à la mairie pour chercher le document, nous ne pouvons pas ne pas les donner. Généralement, quand je vois une femme en larmes qui se présente devant nous, je veux avoir mon acte de mariage. Bon, y a des femmes qui nous disent clairement, le mari a refusé de me donner. On appelle le mari et on discute.
Les avis des femmes sur la gestion d'actes d'état civil sont divergents. Toutefois, nombreuses sont celles qui pensent que cette tâche incombe aux époux dans le foyer. Ces dames de Kaye, Kadjolo et Tomignan se prononcent.
Il m'est très difficile de garder ces papiers à cause des enfants.
Je pense qu'il revient à l'homme de s'occuper de l'acte de mariage. Sinon, quand nous on pique une crise de colère, les conséquences peuvent être graves.
Ce n'est pas qu'on ne peut pas les garder, mais on accepte que notre époux le fasse. En cas d'urgence, je peux facilement les accéder.
Pour plus de sécurité, peut-être ils vont se dire avec les femmes, si certaines femmes sont négligentes, ils peuvent perdre ces documents.
Pourquoi les hommes gardent toujours ces documents précieux? Certains hommes rencontrés à Bamako avancent leur raison.
C'est moi-même qui garde tous ces papiers. Lorsque je pars en voyage, je les mets à la disposition de mon épouse.
Si vous confiez ces documents à votre femme, ne soyez pas étonné dans l'avenir lorsqu'elle vous convoque au tribunal.
Si l'homme voyage beaucoup, il peut les donner à sa femme. C'est mieux que l'homme garde ses actes d'état civil. Les femmes d'aujourd'hui sont imprévisibles.
Aucune disposition dispositions de la loi ne demandent de confier les actes d'état civil à l'époux. C'est ce qu'affirme Mahamadou Djanka, juriste.
C'est plutôt une question de responsabilité liée à nos coutumes qu'une disposition expresse de la loi qui prévoit cela. Chacun dispose de la possibilité de faire l'usage qu'il en veut, notamment dans le cadre de la couverture sociale, dans le cadre de la gestion de l'impôt. Mais c'est la coutume plutôt qui veut que ces actes d'état civil soient gardés par le chef de famille.
Rappelons que les actes d'état civil sont délivrés par les mairies des communes au Mali.